Oui, merci Didier. Un livre manifeste un génocide en toute liberté avec ce matin Jacques Biolay.
Le petit déjeuner de Patrick Ferlat sur Radio Suisse Romande La Première avec Nescafé.
Fin de semaine à vous, madame, monsieur, bonjour, et bonjour, bienvenue à Jacques Biolay.
Bonjour.
Qui nous a rejoint ce matin pour le petit déjeuner. Jacques Biolay, vous avez 36 ans, vous êtes artiste peintre depuis l'âge de 18 ans, je crois.
Oui.
Jacques Biolay, qui nous devons aussi des livres et des essais. Pour mémoire, j'aimerais rappeler les deux ouvrages que vous avez consacrés en particulier au peintre fribourgeois Armand Niki pour ses 80 ans, dont l'un recueil de textes est paru sous le titre Le Veilleur de Solitude. Rappelons également la sortie de presse l'an dernier de L'Émeraude Bleue, une série de contes et d'histoires courte, illustrée par un peintre que vous aimez beaucoup, que vous admirez, c'est À la bonne foi, comme un ciel de Chagall, chronique extraordinaire d'un pénis ordinaire. C'est un ouvrage décoiffant, lui qui était paru voici tout juste 2 ans. Alors ce matin, si vous nous revenez, Jacques Biolay, c'est pour parler d'un drame qui ébranle les consciences de notre monde contemporain. Plus jamais ça, avait-on dit, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on l'avait dit, mais la situation qui prévaut aujourd'hui en ex-Yougoslavie tendrait à indiquer que ce cri est demeuré sans mémoire ou sans écho. Un drame et une réalité auquel vous consacrez donc un livre cri, un livre manifeste paru aux co-éditions chez Méandre et Valada sous le titre Un génocide en toute liberté. Un livre manifeste dans lequel vous écrivez, Jacques Biolay, je vous cite, qu'il est possible à la fin du XXe siècle en Europe de déporter des gens par millions, qu'il est possible, rappelez-vous, de les terroriser, de les assassiner, de les violer, qu'il est possible enfin d'achever la besogne dans des camps où femmes, hommes et enfants sont bafoués, parfois massacrés. Or la réaction de l'Occident n'est pas à la mesure des atrocités commises. Nous en dirons davantage au cours de ce petit déjeuner. Mais j'aimerais d'abord, Jacques Biolay, qui vous exprimez généralement par le biais des signes, de la couleur et de la projection dans l'espace, que vous nous disiez pourquoi ce besoin finalement renouvelé au fil du temps de l'écriture. Serait-ce par exemple que la peinture ne permet pas toujours finalement d'exprimer ce qui doit parfois être dit?
La peinture permet, en tout cas donne l'espoir de s'exprimer dans un monde imaginaire, dans un monde de fantasmes, un monde très personnel. Mais il y a le monde aussi qui vit, qui fait des appels auxquels on ne peut pas résister. Et je dirais que d'une certaine manière, je préférerais rester dans mon atelier. Ce serait peut-être une vie plus confortable, mais c'est impossible, par exemple, par rapport à ce qui se passe en Bosnie, de rester dans son atelier. Donc, durant l'année 1992, petit à petit, je dirais, est né en moi et s'est développé un sentiment de honte, de tristesse et de révolte qui ne pouvait plus laisser place, je dirais, à un monde imaginaire qu'il est bon de développer pour apprendre à se connaître et apprendre à développer sa personnalité.
Oui, mais la tristesse, la révolte, la honte dont vous parlez, elle n'est pas exprimable par le biais de la peinture aussi?
C'est vrai que peut-être certains artistes le feraient. Ma peinture n'est pas, je dirais, de ce genre-là. J'essaye de développer des mondes qui sont, je dirais, les mondes secrets de l'humain où peut-être on a accès à des archétypes, à des choses profondes, à des époques différentes. Maintenant, quand on parle de la Bosnie, c'est Iketnung, c'est maintenant. Et je pense que la peinture, finalement, est au-delà du maintenant. Elle essaye de parler de ce qui est permanent dans l'homme, peut-être de ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et en Bosnie, on voit ce qu'il y a de pire dans l'homme.
Mais parallèlement à votre œuvre picturale, Jacques Biolay, il y a donc votre œuvre littéraire. Vous êtes l'auteur, je le rappelais brièvement, d'un certain nombre de livres. Comment est né en vous ce désir ou ce besoin d'écriture tout de même?
Bien, c'est un petit peu, je dirais, au coup par coup, pour employer cette expression. Le premier livre, vous l'avez dit, j'avais envie de dire quelque chose dans le domaine de la sexualité. J'avais l'impression de pouvoir trouver une petite voix, une petite mélodie que je n'avais encore jamais lue dans un livre. Donc ça a été une entreprise assez longue, 5 ans pour écrire ce livre que vous citiez, Comme un ciel de Chagall. Mmh. Ensuite, il y a un recueil de contes et d'histoires courtes qui était une sorte de repos par rapport à ce livre qui m'avait demandé beaucoup de travail pour trouver le ton qui convenait. Et ensuite, ce dernier livre, là, puisque je suis l'auteur de trois livres, le réalisateur d'autres, mais enfin auteur de trois livres, comme je vous l'ai dit, c'est un appel auquel je ne pouvais plus résister. C'est une sorte d'acte réflexe, mais que j'ai voulu argumenter par rapport à des choses qui m'obstruaient complètement la vie, je dirais.
Est-ce que l'écriture, à un certain moment donné de votre vie, Jacques Biollet, a été comme un ultime secours par rapport à la peur ou à la solitude ?
Non, je crois que pour ce qui est de ce dernier livre, c'est
plutôt... Non, je parle pas du livre, je parle de l'écriture.
Non, parce que alors, je crois pas. Je crois que c'est vraiment un acte qui est tourné vers les autres. C'est plutôt un renforcement des liens avec les autres. Si je parle, par exemple, j'ai parlé de sexualité, c'est parce que c'est vrai, ça a été le bonheur d'après le livre. C'est pour après avoir le plaisir de gens qui me disent, j'ai découvert ça. Quand quelqu'un vous dit, mais j'étais bloqué à ce niveau-là, etc. Des choses ont changé, mais c'est un cadeau extraordinaire que vous recevez d'avoir pu donner quelque chose à quelqu'un que vous ne connaissez même pas, qui habite à Paris ou Dieu sait où. Donc c'est très grisant de pouvoir finalement atteindre les autres avec un livre. Avec le livre qui vient de paraître maintenant, je dirais que le désir d'atteindre l'autre, il est encore plus manifeste parce qu'il y a un cri qui rugit en vous et vous avez envie d'en faire quelque chose finalement.
Nous avions reçu ici au petit déjeuner, voici quelques années, Jean-Paul Kaufmann, dont on sait ce qu'il a vécu, enduré au Liban. Kaufmann nous avait expliqué précisément, durant ces années de réclusion, que précisément l'écriture avait été l'ultime rempart, à la fois contre la solitude, mais contre la folie aussi. Ça, j'imagine que vous le comprenez d'une part, mais je crois que d'une certaine manière, vous l'avez vécu aussi à votre manière.
Oui, je vois que...
Vous ne voulez pas en parler ou vous voulez en parler ?
Non, je vois que vous me tendez un petit peu la perche. Vous évoquez une expérience d'incarcération. Oui, j'en ai vécu une relativement brève. C'était à Prague il y a 9 ans. C'est vrai que là, ce que vous disiez de l'écriture avant est valable. C'est vrai que là, coupé de tout entre quatre murs, quand vous recevez un crayon, eh bien, c'est une espèce de chose extraordinaire parce que vous allez pouvoir sortir de vous-même quelque chose. Alors là, c'est vrai que c'est un combat contre la solitude. Et même si j'ai pas écrit beaucoup, une ou deux pages par jour, finalement, vous en accumulez beaucoup. Elles deviennent précieuses. Pour la petite histoire, je me rappelle même que, comme on me disait que les papiers allaient être de toute façon pris par l'administration de la prison, je les avais scrupuleusement recopiés sur du papier à cigarette, tout ça tenait dans un petit stylo. Quand je repense à ça, je me dis, mais tiens, mais pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je pense que j'y tenais énormément à ces petits bouts de papier, quoi. Je voulais les conserver, même si je les ai pas relus finalement ensuite.
Oui, puisqu'on se dit tout au petit déjeuner, que s'était-il passé ?
Bien, sans entrer dans les détails, simplement j'ai été accusé, c'était en 1984, à Prague, d'avoir aidé un ressortissant Prague à quitter la Tchécoslovaquie, qui était donc, je dis était, heureusement, qui était un pays fermé.
Vous vous sentez très concerné, Jacques Biollet, depuis longtemps par ce qui s'est passé, par ce qui se passe aujourd'hui encore dans les pays dits de l'Est européen.
Oui,
on sent un lien fraternel avec ces pays.
Oui, pourtant, on me pose souvent cette question, mais est-ce que tu as des affinités particulières ? Je dirais non, c'est un petit peu le hasard de la vie ou le destin qui fait que, c'est vrai, je me suis intéressé plus à cela, mais pour ce qui concerne la Bosnie, il y a déjà la proximité avec nous qui est frappante, et d'autre part il y a le fait que ce qui se passe maintenant là-bas est pratiquement des choses qui ne sont pas passées en Europe depuis la dernière guerre. Donc pour moi je considère ces fêtes-là comme des fêtes majeures, et si vous voulez la petitesse des réactions oblige, si vous voulez, à faire quelque chose, à tenter, mais d'une manière presque désespérée. Quand j'ai terminé ce livre, je pensais finalement m'être un petit peu libéré de ce cri que je voulais pousser presque, mais finalement à peine était-il terminé que je me suis dit, mais tiens, que faut-il faire ? Vraiment, je peux dire que je suis mon cœur est complètement là-dedans, parce que je fais un petit parallèle avec le génocide des Juifs. Ça s'est passé dans les années 40. Moi je suis né en 57, donc je n'ai vu que des documents, des choses comme ça, et bien sûr je me suis posé la question comme tout le monde, mais comment cela a-t-il été possible ? Est-ce qu'on savait, etc. Et finalement j'ai vécu un petit peu dans l'illusion que ça ne pouvait plus se reproduire. Et quant à leur devoir, votre vivant se passe des choses comme ça, il n'est pas possible de rester chez soi et de dire tiens, mais il faut que ça s'arrête, il faut rien faire, etc. Il ne faut pas ajouter la guerre à la guerre, etc. C'est une question de presque de vie ou de mort. Moi, il faut avoir une certaine adéquation entre ce qu'on pense, entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Sinon, on ne mène plus une vie, on mène une existence assez petite.
Oui, d'où les questions personnelles que je vous posais il y a un instant. Alors, Un génocide en toute liberté, c'est le livre dont nous parlons ce matin, Jacques Biollet. Vous êtes allé déjà en Bosnie ?
Eh bien, je suis content de dire que je ne suis pas allé dans le sens où ce fait-là prouve qu'il est possible d'écrire un livre tel que celui-ci, je crois qu'il est assez bien documenté, en n'y étant pas allé. Donc, ça répond, ce livre répond aussi à la question « Savions-nous vraiment ?» Ce livre est écrit maintenant, donc pendant ce qui se passe, et je crois qu'il a une certaine valeur pour moi dans la mesure où ce n'est pas un livre qui suit les événements, mais qu'il a été écrit pendant les événements, et en plus par quelqu'un qui n'y est pas allé. Alors, je n'estime pas que je suis mieux renseigné que d'autres, mais j'estime que ça servira dans une petite mesure, bien sûr, c'est une goutte d'eau dans un océan, à dire, eh bien, un Suisse, en 1993, a pu écrire ce livre, a pu être informé, tout ceci était su.
Oui, vous comptez vous y rendre, néanmoins ?
Je pense que je vous parlais justement du sentiment de frustration qui peut malgré tout subsister après avoir écrit un livre. C'est vrai que je suis à la recherche de la poursuite d'une action. Je suis en contact avec différentes organisations. Alors, il est possible de faire certaines choses depuis ici, depuis Paris. Par exemple, il y a une organisation qui s'appelle France Liberté qui essaye de regrouper les actions de plusieurs organisations humanitaires. Ils ont fondé à Sarajevo une maison du citoyen. Ouais, il y a plein de choses qui se passe. À partir du moment où le livre a été terminé, j'ai été en contact avec beaucoup de gens bosniaques qui agissent. C'est aussi très rassurant de voir, si vous voulez, qu'en dépit des bombes, il y en a 800 000 qui sont tombés sur Sarajevo depuis une année, donc 800 000 obus sur cette ville. Eh bien, la vie demeure, la vie subsiste, on s'organise, on fait même des enquêtes pour savoir. J'en ai lu une ce matin, justement, de l'UNICEF, qui essaie de savoir combien d'enfants ont assisté à un massacre. Alors, il y a, je crois, près de 20%, je crois, d'enfants qui ont assisté à un massacre à Sarajevo. Il y en a 43% qui ont vu quelqu'un mourir, ou non 50, je crois, etc. Bref, on fait même des statistiques sur les horreurs pour essayer de prouver, de dire. Donc, vous voyez, il y a un faisceau, un ensemble de choses qui se fait, qui prouve que la vie, malgré tout, est plus forte, même si elle a dû subir les choses les plus terribles là-bas.
La Bosnie, dont revient Mgr Pierre Mamy, qui sera notre invité demain au petit déjeuner. Là, il est 9h17 sur les antennes de Radio Suisse de la Première et de Radio Suisse Internationale. Une première pause avec Jean-Loup Imura. Donc, dans ce petit déjeuner de Jacques Biollet. 22 minutes sur les antennes de radio, sûrement de la première et de Radio Suisse Internationale, au petit déjeuner de Jacques Biollet ce jeudi matin. Un génocide en toute liberté, c'est donc ce livre manifeste dont nous parlons ce matin un peu ensemble. Et en avant-propos, ces mots Jacques Biollet, depuis le début, les réactions ne sont pas à la mesure des actes commis. Est-ce pour cela que vous avez décidé de prendre la parole ?
Oui, c'est pour cela que je prends la parole. D'ailleurs, je fais un parallèle avec Alain Finkielkraut, qui est un philosophe français qui s'est beaucoup exprimé là-dessus et qui dit, je l'ai lu il y a un peu de temps, si on avait réagi finalement de manière véhémente et juste par rapport à ce qui se passait, peut-être que l'engagement ne serait pas aussi intense de la part des gens qui se croient ou se disent scandalisés par ce qui arrive. Et, il y a, si vous voulez, dans l'opinion publique, qui a une certaine force, si vous voulez, actuellement sur le pouvoir politique, il y a, je dirais, un ensemble de concepts qui est maintenant admis, qui forme un consensus qui est qu'il ne faut pas s'en occuper, que l'ensemble des gens qui font la guerre là-bas sont pratiquement des barbares, que le terrain est trop accidenté, qu'on a un risque d'internationalisation du conflit, enfin tout un ensemble, si vous voulez, de bonnes raisons qui sont totalement admises. Et en plus, à cela s'ajoute, je dirais, la notion d'imbroglio. Il y a une confusion, je dirais, assez grande au niveau des gens, de l'opinion publique, par rapport à ce qui se passe en Bosnie. Personne ne vaut mieux que l'autre dans l'esprit des gens. Alors que je crois qu'il faut le dire et le répéter, j'assiste justement à beaucoup de démissions où on ne le dit pas, qu'il y a quand même des agresseurs et des agressés. Je parlais juste avant de Sarajevo, c'est donc bien une ville bosniaque en Bosnie qui est assiégée par les nationalistes serbes, elle n'est pas assiégée par quelqu'un d'autre. Et à l'intérieur de la ville de Sarajevo, c'est donc pas une ethnie qui lutte, c'est trois ethnies. Il y a des Croates, il y a des musulmans, il y a aussi des Serbes d'ailleurs, ils sont 60 000 à Sarajevo, qui sont sous les bombes des nationalistes serbes. On le dit de plus en plus, j'espère que j'enfonce pas une porte ouverte maintenant en disant ça, mais il y a eu des mois et des mois où on parlait de snipers, on parlait de tchétniks, les gens ne savent pas exactement ce que c'est un tchétnik, et vous pouvez en faire l'expérience, en tout cas je la fais quotidiennement, les gens ne sont pas au courant de qui est qui, est-ce que Zagreb est la capitale de la Serbie ou Dieu sait quoi. Donc c'est aussi le désir de lutter contre cette notion d'imbroglio et de lutter contre une deuxième notion qui est celle que j'appelle celle du tous coupables. Comme tout le monde est coupable, et bien finalement rien ne sert de s'en occuper.
Oui, une précision, ouvre ce livre, donc un génocide en toute liberté, un avertissement, vous l'écrivez très clairement, nous prendrons soin de parler ici non pas des Serbes, mais des ultranationalistes serbes, pour désigner ceux qui ont le pouvoir en Serbie et qui sont partisans de la politique de purification ethnique ou qui n'ont pas agi pour qu'elle cesse. Cela afin de ne pas tomber dans un amalgame inacceptable pour le peuple serbe qui comprend une importante opposition démocratique.
Oui, ça peut paraître fastidieux de mettre le long mot d'ultranationaliste devant le mot serbe, mais je pense qu'il est important parce que le peuple serbe, même s'il est majoritairement pour cette guerre, et on peut s'en étonner d'ailleurs, eh bien, possède dans son sein une opposition démocratique qui est minorisée, qui est, je dirais, très affaiblie, mais il y a des Serbes d'ailleurs en Europe, aussi en Suisse, en France, qui sont tout autant contre la guerre que moi ou que des gens d'ici. D'ailleurs, il y a même des Serbes, c'est assez extrémiste, qui disent qu'il faut bombarder Belgrade, donc la capitale serbe, comme on a bombardé Berlin, pour que finalement donner un coup d'arrêt, si vous voulez, à cet expansionnisme nationaliste serbe. Je n'irai peut-être pas jusque-là. Là, je crois qu'il s'agit justement de ne pas ajouter la guerre à la guerre. Mais malgré tout, je pense qu'il faut respecter le peuple serbe dans son, je dirais pas dans son ensemble, mais pour la part qui est contre la guerre. Et il faut refuser cet amalgame qui consiste à mettre tout le monde dans le même panier.
Oui, l'enjeu de ce livre, c'est aussi cela.
Oui, je crois. Je pense que la responsabilité politique est essentiellement du côté serbe, et toutes les organisations humanitaires, toutes les commissions d'enquête qui ont travaillé là-bas sont unanimes, c'est important à ce sujet-là. Donc la responsabilité politique est contre eux, donc je crois que c'est contre eux qu'il faut agir. Mais je voulais aussi dans ce livre ne pas écrire un livre unilatéral. Je parle aussi des exactions qui sont commises par contre-coup forcément par les musulmans ou par les Croates. Les Croates sont aussi un régime qui s'est durci forcément durant la guerre, et je pense qu'une victime serbe vaut une victime musulmane. Je crois qu'on ne peut pas faire cet amalgame qui est de dire ce raccourci qui est de dire les Serbes sont coupables. Non, les ultranationalistes serbes ont la responsabilité politique, c'est contre eux qu'il faut lutter, mais je dirais que des crimes ont été commis de toutes parts, ça c'est certain, mais à mon avis c'est capital de dire que ce fait-là n'autorise pas à se laver les mains et à ne dire on va rien faire. Dans toute guerre, tout camp a commis des atrocités. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde était coupable.
Comment a surgi dans votre existence quotidienne ce livre, ce manifeste, Jacques Biolay ? Est-ce que c'est un événement précis ? C'est une image à la télévision ? C'est un témoignage ?
Ben, y a un crescendo, je dirais. Ça fait quand même 2 ans que je suis quotidiennement ce qui se passe, parce que je suis estomaqué par ce crescendo dans l'horreur et aussi le fait qu'il n'y a pas de crescendo dans la réaction. On pourrait en parler plus tard, mais enfin, il y a une espèce de pseudo-réaction où l'humanitaire joue le rôle d'alibi. Je dirais qu'il y a dans ce crescendo, une des premières étapes, c'est donc le dévoilement si vous voulez, l'annonce faite au monde que des camps existent, où on bafoue les gens, où on les séquestre, où on les viole, des enfants aussi. Et ça, c'est une première chose. Et je dirais le dernier déclic, enfin, je ne veux pas faire toute l'historique de ce crescendo, parce que c'est un voyage dans l'horreur, je dirais, l'annonce faite à l'Occident que les chiffres diffèrent, 20 000, 30 000, 50 000 femmes musulmanes, essentiellement, ont été violées, non pas dans des gestes, je ne vais pas dire normaux, mais enfin habituels dans des guerres, mais ceci relève, si vous voulez, d'une politique de terrorisation de la population. Donc je crois que je suis très sensibilisé par ce crime du viol. Et quand alors il ne s'agit plus de viol isolé, mais carrément d'une politique systématique de viol, mais je veux dire, c'est une chose sans précédent. Et à cette chose sans précédent, je crois qu'il faut opposer une réaction aussi sans précédent. Et il n'y a rien eu, je veux dire, c'est assez terrifiant qu'on puisse séquestrer des femmes pendant 2 semaines, 3 semaines, les violer à répétition, d'ailleurs d'une quantité d'hommes qui violent la même femme, et ensuite on les séquestre jusqu'à ce que leur grossesse ne puisse plus être interrompue. Je veux dire, peut-on aller plus loin dans l'horreur ? Alors, je veux dire, c'est là que c'est arrêté ma vie, et que je me suis dit que toute priorité serait donnée à ça pour essayer de faire une petite chose, d'apporter ma petite contribution à la dénonciation de ces phénomènes.
Une contribution d'homme, donc ?
Oui, une contribution d'homme. C'est vrai que c'est aussi une chose terrifiante, c'est que c'est un monde d'hommes quand même qui fait la guerre, et c'est comme dans beaucoup de guerres, le monde des femmes et le monde des enfants, le monde des vieillards qui en souffrent le plus. Lors de cette guerre, 90% des victimes sont civiles, et dans ces 90%, un quart sont des enfants. Ça donne la mesure, si vous voulez, de la réaction qui devrait être la nôtre.
Jacques Biolay, à celles et ceux qui parlent de désinformation, que répondez-vous ?
Oui, je crois qu'il est possible d'avoir une information exhaustive, si vous voulez. Mais je crois que l'information, ou plutôt, je veux dire, au niveau politique, ce qui a été fait a finalement beaucoup servi à endormir quand même l'opinion publique. Je prends un exemple. Au mois d'octobre de l'année passée, on interdit le survol de l'espace aérien bosniaque. Mais l'ONU n'a sorti cette résolution d'aucune mesure pour la faire respecter. Et d'ailleurs, elle donne 30 jours, on se demande pourquoi, aux nationalistes serbes pour la respecter. Ils ont 30 jours, ça je ne comprends pas. Tiens, on leur dit, en fait, pendant 30 jours, vous avez encore le droit de violer. Et ensuite, 6 mois plus tard, on vote avec une certaine difficulté, mais d'ailleurs la Russie a voté aussi, des moyens militaires pour faire quelque chose contre les violations. Mais il y en a eu 500 entre-temps. Alors vous voyez, je crois que c'est des résolutions qui sont sans cesse reportées. C'est la même chose pour l'embargo. On a décrété un embargo contre la Serbie, et c'est une bonne chose, je pense, puisqu'ils ont la responsabilité politique de cette guerre. Mais concernant par exemple le Danube, on ne prévoit aucun contrôle en mai passé, en mai 92, pour empêcher que des bateaux violent cet embargo. Et ce n'est que beaucoup plus tard je crois que c'était en octobre ou en novembre, qu'on permet aux pays riverains de contrôler cet embargo, mais ils ne le font pratiquement pas parce qu'ils ont certaines affinités avec la Serbie, sauf la Roumanie peut-être qui a agi parce qu'elle voulait soigner quand même son image internationale. Et ce n'est que maintenant, au mois d'avril, que 6 pays occidentaux, dont la France, vont enfin déléguer des observateurs, ils sont d'ailleurs pas très nombreux, pour faire respecter cet embargo sur le Danube. Donc toutes ces informations dont je vous fais part maintenant, elles existent, mais qui a le temps d'aller voir un petit peu au fond de l'information ? On retient qu'on a fait un embargo contre la Serbie, puis que c'est très bien, mais dans le fond des choses, ce que je viens de vous dire vous montre qu'il est violé. Il y avait un titre aujourd'hui même dans Le Monde qui était, je crois, embargo, une politique qui prend l'eau sur le Danube. Vous voyez ? Alors je veux dire, l'information existe, je ne l'ai pas inventé, ce que je viens de vous dire, mais encore faut-il aller fouiller dans l'information.
Un génocide en toute liberté. On poursuit notre conversation dans un instant. Tout à l'heure sera aussi le coup de fil du petit déjeuner que vous adresserez ce matin au philosophe français Alain Finkielkraut dans 3 ou 4 minutes.
naissance, un enfant meurt en silence sur le trottoir de Bogota. On ne s'arrête pas, déchiquetés aux champs de mine, décimés aux premières lignes. Morts les enfants de la guerre pour les idées de leur père. Balle à l'ambassade. Ce partage l'univers. Dans les enfants de Bhopal, d'industrie occidentale, partis dans les eaux du Gange, les avocats s'arrangent. Dans les enfants de la haine, près de nous ou plus lointaine. Dans les enfants de la peur, chevrotine dans le cœur. À l'ambassade, quelques vieux malades, imbéciles et militaires, se partagent l'univers. Dans les enfants du Sahel, on accuse le soleil. Dans les enfants de Céveso, dans les arbres, les oiseaux. Dans les enfants de la route, doute, papa picolait sans doute, deux ou trois verres, quelques gouttes. Balle à l'ambassade, quelques vieux malades, imbéciles et tortionnaires, se partagent l'univers. Qui vivait en moi, qui voyait en ce monde-là un jardin, une rivière et des hommes plutôt frères. Le jardin est une jungle, les hommes sont devenus dingues. La rivière charrie des larmes, un jour l'enfant prend une arme. Balle sur l'ambassade, attentat. Thank you.
Régine Abel au petit déjeuner de Jacques Biollet, 10h-20 sur les antennes de radio sur le monde de la première. La Bosnie, un génocide en toute liberté. Pour le coup de fil au petit déjeuner, Jacques Biollet, vous appelez le philosophe français à Paris, Alain Finkielkraut.
Avant de vous poser quelques questions, je voudrais rappeler le rôle important que vous avez joué dans la tragédie qui est en train de se passer en Bosnie. Vous avez été, un des rares intellectuels qui s'est positionné, qui a suivi ce qui se passait, qui a témoigné de son indignation depuis longtemps. La question que j'ai envie de vous poser, vous connaissez les derniers développements de l'information et de la situation en Bosnie. Que vous inspire le refus des nationalistes serbes de signer le plan de paix Vance-Oven, cela d'autant plus que ce refus est pratiquement à l'unanimité?
Ben écoutez, j'espère qu'un tel refus déciera les yeux des plus obstinés. Ce refus veut dire que les Serbes n'ont absolument pas renoncé à leur volonté de constituer une grande Serbie homogène et ethniquement pure. D'ailleurs, ils ont assorti ce refus de la volonté de constituer un parlement pan-serbe. Je pense qu'ils ont ils refusent aujourd'hui parce qu'ils n'ont même pas peur des menaces que pourraient faire peser sur eux les grandes puissances, si vous voulez. Ils ont signé il y a un an le plan Vance concernant les régions serbes ou les régions conquises de Croatie, en espérant que les casques bleus allaient geler pour eux la conquête, ce qui a eu lieu. Et là maintenant, ils ne prennent même pas cette précaution. Cela dit, nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise, il faut aussi s'y préparer. Peut-être qu'au dernier moment, une fois conquise la ville de Srebrenica, ils signeront ce plan, mais ils ne le signeront que lorsqu'il sera caduc et inapplicable, lorsqu'ils auront créé une situation de fait accompli.
Et justement, devant cette situation de fait accompli, parce que c'est bien cela leur politique, quelles sont les chances pour le peuple musulman d'aboutir finalement à une solution, ou quelle est l'issue favorable, s'il y en a une pour eux?
Mais écoutez, la seule issue favorable serait une issue militaire. Il n'y a de paix possible que par la guerre. Il est absurde d'opposer la solution pacifique et la solution militaire comme on le fait. La solution pacifique sans la guerre, c'est simplement la consécration de la victoire serbe et donc de l'écrasement du peuple musulman. Il faudrait, pour éviter une telle honte, il faudrait lever l'embargo sur les armes à destination de la Bosnie-Herzégovine et assortir cette levée de l'embargo d'une intervention aérienne des puissances occidentales. Je crois que toute autre solution est une manière de s'incliner devant le nettoyage ethnique.
Oui, et la dernière question que je voudrais vous poser, vous employez des termes très clairs, et ce langage, celui que vous tenez, finalement a été très rarement tenu, soit par les politiciens, soit par les intellectuels. Peut-être un certain cynisme, un certain égoïsme de la part des chancelleries occidentales, mais de la part du monde intellectuel. Comment expliquez-vous la démission ou le désintérêt ou le non-engagement finalement d'une grande frange du monde intellectuel occidental?
Alors, je crois qu'il y a deux raisons. La première, c'est que les intellectuels n'ont pas renoncé à l'idéologie de la paix à tout prix, et malgré l'expérience du XXe siècle, le pacifisme continue à fleurir. L'idéologie de la paix à tout prix a eu beau permettre à Hitler de conquérir une partie de l'Europe sans coup férir, il faut penser à la Tchécoslovaquie au sud-est, etc. Eh bien, malgré cela, malgré cette expérience, malgré les références constantes à la Deuxième Guerre mondiale, on continue de dire que la paix vaut mieux que tout, il faut sauver des vies, même si c'est au prix de toute liberté, de toute dignité, et au prix pour les musulmans de leur patrie même. Voilà ce que je constate. Et puis deuxièmement, je pense qu'il y a eu une erreur fondamentale qui a été commise depuis la chute du mur de Berlin. On a cru, si vous voulez, que la chute du mur signifiait l'unité de l'Europe. Il y avait deux blocs, il n'y en a plus qu'un. On s'est dit 2 moins 1 égale 1. Or, une autre arithmétique a eu lieu, puisque 2 moins 1, eh bien, ça a donné une multiplication, une prolifération de petites souverainetés. La Slovaquie se séparant de la Bohême, la Slovénie, la Croatie se séparant parents de la Serbie, etc. Et on n'était pas prêt à une telle arithmétique, à une sorte de fanatisme de l'unité à consister à rejeter la faute, si vous voulez, sur les séparatistes. Puisque on voulait l'unité, on en a voulu précisément à ceux qui brisaient, qui fracassaient ce beau rêve d'une Europe, d'une planète, en quelque sorte, ou d'un seul monde, ou d'une seule histoire, puisqu'à ce moment-là, on parlait même de la fin de l'histoire. On n'a pas compris que lorsque le peuple décide à la possibilité de décider de sa propre vie, eh bien, le peuple, ça n'existe pas comme une seule masse, comme une seule entité. Le peuple, oui, ça a plusieurs formes. Il n'y a pas un peuple, il y a des peuples. Et si vous voulez, donc on a mis beaucoup de temps à comprendre que le véritable danger, ce n'était pas l'aspiration identitaire des peuples libérés du communisme, mais c'était l'impérialisme de peuples qui ne pouvaient pas tolérer de perdre leur puissance. Le danger, ce n'est pas le nationalisme en l'occurrence, c'est le panserbisme, c'est l'expansionnisme, c'est la tentative d'envahir les peuples qui se rebellent, les nations captives qui réclament leur liberté. Si vous voulez, et ce contresens a été absolument désastreux parce qu'il a fallu des milliers de morts, il a fallu des horreurs sans nom et sans nombre pour que la vision se redresse et pour que on sorte de ce fanatisme idéologique de l'unité et que l'on comprenne que les coupables, en l'occurrence, ce n'étaient pas les nationalistes, c'était les impérialistes. Et on l'a compris trop tard.
C'est vrai, le nationalisme peut être le berceau de la démocratie et on l'a finalement frappé de tous les maux, comme si le nationalisme, voilà, lui-même devait être une tare, en fait. Mais le nationalisme, ça peut être aussi l'écrin dans lequel peut se développer une démocratie.
Ça peut être le cadre de la démocratie. Exactement. C'est l'aspiration nationale qu'on a taxée de nationalisme, et surtout on s'est dit, voilà, il y a une seule alternative, soit l'association, soit la coopération, soit le repli identitaire. Mais quand on se déchaîne contre le repli identitaire, on n'a ni mot ni lieu pour ce que j'appellerais le déploiement, le dépli. Les Serbes ne se sont pas repliés, ils se sont dépliés. Et à force de condamner le repli, eh bien, le déploiement des Serbes n'a même pas été perçu. Hein. Oui. Et maintenant, on s'en aperçoit, mais beaucoup trop tard. Si vous voulez, il y a donc une erreur de jugement absolument fondamentale et qui est liée à ce fanatisme de l'unité dont je parlais. Oui, il faut être pour l'unité du monde et l'unité de l'Europe, mais une unité dans la diversité, parce que la diversité, c'est le prix à payer pour la démocratie aussi.
Voilà. Écoutez, je poursuivrai bien la conversation avec vous. Je dois malheureusement l'interrompre. Je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. J'ai pu mesurer à quel point, dans vos propos, vous êtes direct et franc. Ce que j'ai aussi ressenti à la lecture de votre livre, dont je rappelle le titre, Comment peut-on être croate, qui rassemble beaucoup d'articles parus dans Le Monde et qui témoignent de cette volonté de dire ce qui doit être dit et finalement qui ne l'a pas été assez. Et peut-être que ce silence et cette démission elle-même est coupable.
Écoutez, je vous remercie.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir. Thank you.
la musique d'Ari Zalatka pour le film de Michel Souter, Repérage. Jacques Biollet, donc au petit déjeuner. Est-ce que vous partagez complètement l'opinion exprimée il y a quelques minutes par Alain Finkielkraut?
Oui, c'est des propos très durs, mais oui. Je crois que face à certaines situations, il n'est pas possible de se dérober. Autant peut paraître difficile de s'engager militairement, autant il est inacceptable que des milliers de gens soient torturés, violés, déportés. Si on accepte ça sans coup férir, mais je veux dire, l'ensemble de notre éthique, de nos valeurs, mais je crois qu'il ne faut plus en parler. Il faut dire que c'est une décoration peut-être pour philosophes, mais ce n'est plus une chose qu'on essaye de mettre en pratique, de mettre en œuvre. Je crois qu'il y a un choix fondamental de société. Est-ce qu'on s'oppose à l'horreur ou on l'accepte? Pour des raisons, je dirais, assez cyniques. Il faut bien s'imaginer que les gens qui commettent ces crimes sont sans scrupules. Ils vont même jusqu'à les nier. Je dirais, il y a des quantités de citations de Radovan Karadzic, par exemple, qui est le chef des nationalistes serbes de Bosnie, qui dit, mais il n'y a pas de purification ethnique. On essaye de retenir les gens, mais ils s'en vont. On ne sait pas pourquoi. Je veux dire, je pourrais faire toute une série de citations. Donc, c'est des gens sans scrupules qui ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'ils agissent en totale impunité. Donc, je crois que, sous couvert, si vous voulez, de ne pas ajouter la guerre à la guerre, pour prendre le propos de François Mitterrand, on va ajouter des morts et des terreurs sans nombre. Et d'autant plus qu'il y a d'autres objectifs qui se préfigurent, qui s'annoncent pour les nationalistes serbes, parce que le régime de Milosevic est dans une espèce d'accélération et il ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que toutes les négociations qui ont été entreprises n'aboutissent à rien parce qu'il n'est pas question pour eux de cesser. C'est un chemin sans retour. La seule manière d'interrompre ça, c'est par des pressions extrêmement puissantes. Et je crois justement que faire. Justement, Finkielkraut parlait d'intervention militaire. Alors bien sûr, tout le monde est contre. C'est une responsabilité terrible. Ce n'est pas facile de choisir. Mais je dirais que la moindre des choses serait de faire respecter l'embargo. La moindre des choses serait peut-être de permettre au pays agressé, donc qui est la Bosnie, de pouvoir se défendre. Il faut quand même rappeler que les forces en présence sont complètement disproportionnées.
Oui, c'est ce que réclame notamment Bernard-Henri Lévy.
Voilà. Je rappelle que les nationalistes serbes ont 1 500, je ne sais pas combien de tanks. Il y en a 10 du côté bosniaque. Je veux dire, il y a une disparité complète. Alors si on décrète un embargo sur les deux camps, ceux qui se défendent et ceux qui agressent, il faut quand même le dire, eh bien on condamne à long terme ceux qui se défendent et on participe, si vous voulez, à leur condamnation. On va jusqu'à leur proposer un traité de paix qui est en fait un armistice ou une reddition. Donc l'Europe, non seulement, je dirais, n'agit pas, mais elle organise tranquillement la fin des combats et le fait accompli des conquêtes serbes. Donc je crois, pour en résumer, je suis partisan, si vous voulez, si vous voulez, je reviens un petit peu dans le passé, ce qui aurait dû être fait n'a pas été fait. Si dès le début, soit l'opinion publique, soit les médias et ensuite les politiciens avaient procédé à une sorte de levée de bouclier, non, c'est impossible, c'est pas possible que ceci se passe et avait menacé les nationalistes serbes, je pense que ceci n'aurait pas pu se passer parce que les serbes, les nationalistes serbes, je reprends toujours l'expression, ne sont pas l'Allemagne nazie, ils n'ont pas une force mondiale ni planétaire. Et d'ailleurs, c'est frappant de voir que dès qu'il y a eu des pressions un petit peu sérieuses, je veux dire le lendemain ou trois jours après, ils ont lâché du lest. Je prends l'exemple du général Morellon qui a vu à la fin mars Milosevic à Belgrade et il a, je dirais, un petit peu bluffé, pour employer ce terme, en disant que les Occidentaux étaient prêts d'intervenir. Eh bien, quatre jours plus tard, il y a eu un cessez-le-feu. Pourtant, le pauvre général Morellon, je dirais, qui était avec 14 personnes à Srebrenica. Donc, vous voyez, je crois qu'on a sous-estimé la capacité de mettre un frein, en tout cas, à ce qui se passait par des pressions crédibles. Les nationalistes serbes sont tout à fait dans la tranquillité pour ce qui est la continuation de leur action de purification ethnique.
Je rappelle, Jacques Biollet, le titre donc de ce livre CRI, de cet essai. J'ai parlé de manifeste tout à l'heure. Ce qui tient à préciser pour l'avoir lu, c'est que c'est un livre qui n'est pas partisan et qui raconte une partie de ce drame, notamment donc par le biais de l'information, un génocide en toute liberté, qui est coédité aux éditions Méandre et Valada. Un autre témoignage donc demain, je vous le rappelle, celui de Monseigneur Pierre Mamy, qui a passé 3 jours en voyage d'information en Bosnie-Herzégovine, qui est donc de retour en Suisse et qui, à son retour dans notre pays hier à Zurich, a notamment demandé que la Suisse envoie des bérets bleus dans ces régions pour le compte des Nations Unies et qui a également demandé que la Suisse s'engage davantage en ex-Yougoslavie. Nous en reparlerons donc demain avec Monseigneur Pierre Mamy dans ce 9-10.
on a posé un quadrillage sur la réalité. Est-ce qu'il sortait du quadrillage? Il n'avait pas le droit d'exister. Vous connaissez l'histoire de la valise de Charlot, n'est-ce pas? Et il essaye de mettre dans sa valise tout ce qu'il peut, puis il y a toujours quelque chose qui ne va pas, alors il recommence. Et puis, pour finir, il en a marre, il ferme sa valise, il boucle la valise, et puis il prend des ciseaux, il coupe tout ce qui dépasse. Eh bien, c'est ce que la science a fait quand même longtemps.
Une voix récemment disparue, un regard lucide sur la vie.
Mais il y a un sujet tabou, alors, maintenant. C'est le sens de la vie, n'est-ce pas? Comme si il fallait avoir honte de parler de Dieu.
Les convictions de Philippe Zeissig, une cassette ou un disque compact que vous propose le service protestant et Radio Suisse Romande La Première. Une adresse, Maison de la Radio, 1211 Genève 8.
Petite minute, il est 10h sur les antennes de Radio Suisse Romande, de la première de Radio Suisse Internationale. Jacques Biollet, je vous remercie de nous avoir rejoints. Je rappelle donc le titre de cet essai, Un génocide en toute liberté. Je voudrais signaler par ailleurs, personnellement, que on pourra vous retrouver, non pas l'activité à la fois celle de l'homme bien sûr, mais non pas de l'écrivain mais du peintre, très prochainement le 24 avril, du 24 avril au 23 mai, vous présentez une nouvelle exposition donc de vos œuvres à la galerie La Tour
à Martigny. Oui. Une exposition qui présente à peu près 80 œuvres dans ce cadre qui est assez grand. Je suis très content d'exposer là-bas.
Oui. Quelle thématique a cette exposition?
La thématique, ce sont donc des personnages, j'en ai parlé tout au début, qui alors développent, j'espère, une sorte de magnificence ou de verticalité dans un monde de couleurs et qui est peut-être le monde secret que j'ai en moi et que j'essaie de faire vivre.
Oui. Comment se porte Julia ce matin?
Oui, j'ai une petite fille qui a 1 an et demi et c'est vrai que le fait d'avoir une petite fille rend impossible le fait d'imaginer qu'un homme peut mettre dans son viseur une petite fille de 2 ans, de 3 ans et la battre. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais d'évoquer ce petit épisode du père d'une fille de 3 ans qui amène à Sarajevo sa petite fille en sang. Elle a 3 ans. Elle a été justement abattue par un sniper, un nationaliste serbe. Et une fois qu'il a remis ce petit corps sanguinolent au médecin, il s'effondre devant la caméra et il dit que celui qui a fait ça vienne boire un café avec moi pour m'expliquer pourquoi il l'a fait. Et il dit ça en pleurant. Et un petit peu plus tard, il dit cette phrase, il ne viendra probablement pas, mais ses larmes le rattraperont. Et je crois que les larmes de tous les gens qui commettent ces atrocités, finalement, les rattraperont. Et finalement, notre honte à nous, qui est d'avoir en grande partie croisé les bras, notre honte nous rattrapera. Et je voudrais ensuite parler de ce petit mot de Roosevelt qui, face à l'inaction, si vous voulez, des alliés face à Hitler durant les années 40, a dit, vous avez le choix entre la honte et la guerre. Vous avez choisi la honte, mais en plus vous aurez la guerre.
Jacques Biollet, merci.
Le petit déjeuner de Patrick Ferlat sur Radio Suisse Romande La Première avec Nescafé.
Avec Donc ce matin, Jacques Biollet dans une réalisation d'Anne-Marie Rec avec en régie Marie-Thérèse Firman et Bertrand Fardel. Merci de nous avoir prêté attention. On se retrouve demain pour l'édition fin de semaine. Demain, nous reparlerons de la situation en ex-Yougoslavie et en Bosnie-Herzégovine en particulier avec les témoignages donc demain de Mgr Pierre Mamie. Merci, à demain. Sur les antennes de Radio Suisse Romande de la Première, il est maintenant 10h.